Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'était il y a tout juste un an, le 8 septembre 2023. Une panne du téléphérique de la Bastille à Grenoble laissait 60 personnes suspendues dans les airs pendant près de 3 heures. Un incident qui nous rappelle que ces bulles métalliques, aussi sécurisées soient-elles, peuvent parfois se transformer en prison céleste. Mais ce n'était pas la première fois. En février 1975, Karim, agent de sécurité à la Bastille, s'est retrouvé bloqué toute une nuit dans une cabine avec des visiteurs à 40 mètres du sol. Une expérience qu'il qualifie aujourd'hui de méditative, malgré les moins 5 degrés et les bourrasques de vent qui faisaient tanguer sa cage de métal. Moins sereine, Sophie, employée depuis 15 ans au refuge du téléphérique, garde, elle, un souvenir traumatique de sa mésaventure de 2019. Coincée pendant 4 heures dans une cabine avec 3 touristes allemands, elle n'est plus jamais remontée dans « les bulles », comme on les appelle ici. Deux histoires de suspension involontaire recueillies par Marie-Charlotte Noël qui nous rappellent que même les trajets les plus quotidiens peuvent parfois basculer dans l'extraordinaire. C'est tout de suite dans Les pieds sur terre. Sauf que voilà, aujourd'hui, ça n'est pas une émission comme les autres. Contrairement à ce que vous pouvez croire, on ne va pas parler de téléphérique ni de la vie dans les sommets, mais d'intelligence artificielle. Car le chapeau que vous venez d'entendre a été entièrement écrit par une intelligence artificielle entraînée à partir de 2157 chapeaux, textes et sons. Il a ensuite été lu par ma voix, synthétisé par une plateforme. Cette Marie-Charlotte Noël n'existe pas et les histoires qui vont suivre, c'est pareil. Elles seront racontées par des voix clonées et entraînées à raconter les scénarios dialogués produits par le modèle conçu spécialement pour cette expérience. Cette semaine, avec le grand sommet de l'IA qui se tient à Paris, on parle d'IA, vous le savez, à tous les coins de rue. Alors, au lieu de rester les bras ballants à écouter les gens dire n'importe quoi ou à peu près, y compris nous, à crier au loup ou à se féliciter, on a pris les choses en main et on vous propose de réfléchir. On ne va pas exactement réfléchir à ce que c'est que l'IA, ni à comment ça marche, mais on va se demander ce qu'elle peut nous apprendre sur notre métier, sur nos émissions, sur notre relation. Oui, la relation qui existe entre vous et nous, entre les auditeurs et les auditrices, et nous qui racontons des histoires vraies, qui témoignons du réel. En cherchant la différence entre un pied sur terre comme vous l'écoutez tous les jours, j'espère, et un pied sur terre entièrement produit par une intelligence artificielle comme vous allez l'entendre tout de suite, je fais le pari qu'on va apprendre des tas de choses. C'est ça l'expérience qu'on vous propose tout de suite avec la complicité de la direction du numérique de Radio France. Et je vous spoil un tout petit peu nos conclusions pour vous calmer si vous êtes en train de bondir sur votre chaise. Bonne nouvelle, on est irremplaçable. Petit avertissement, on a quand même intérêt à se creuser un peu la tête si on veut le rester. Et notre relation, oui, elle va bien, mais elle est fragile. Il faut qu'on se parle plus.
C'était en 1975, j'avais 20 ans à l'époque. Je venais juste d'être embauché comme agent de sécurité au téléphérique de Grenoble. Le téléphérique reliait la ville à la Bastille, cette magnifique forteresse qui surplombe Grenoble. Je me souviens, c'était un boulot qui me plaisait bien, même si au début j'étais un peu impressionné par ces grandes cabines qui montaient et descendaient. Le plus beau, c'était les levées et couchers de soleil sur la ville. Je me sentais un peu comme le gardien de la montagne. Je connaissais chaque bruit, chaque grincement des cabines. C'était devenu comme une deuxième maison pour moi. Ce jour-là, le 29 juillet 1975, je commençais ma journée comme d'habitude au téléphérique. Il faisait beau, c'était une journée d'été normale. Les touristes commençaient à arriver pour monter à la Bastille. Je me souviens, j'étais en train de faire monter un groupe de visiteurs dans la cabine. Je ne me doutais pas que ma vie allait basculer quand j'ai entendu un bruit bizarre, au début, bah, je n'y ai pas prêté attention. On entend toujours des bruits mécaniques dans ce métier. Mais là, c'était différent. Tu vois, c'était comme un grincement, puis un claquement sec. Et d'un coup, bah, tout s'est arrêté. Les cabines bah, se sont immobilisées. On était bloqués. Au début, on se dit que c'est normal. Ça arrive parfois des petits arrêts techniques. Mais là, les minutes passaient et on ne bougeait toujours pas. On était 8 dans la cabine, je crois. Il y avait une dame avec son bébé, un couple de personnes âgées et quelques autres passagers. On était suspendu à environ 80 mètres du sol. Le vent s'est levé et la cabine commençait à se balancer légèrement. En tant qu'agent de sécurité, je devais garder mon calme, rassurer les gens. Mais intérieurement, je commençais à avoir vraiment peur. Le bébé s'est mis à pleurer, sa mère était très inquiète. J'ai essayé d'utiliser l'interphone pour contacter la base, mais ça ne répondait pas. C'était le silence total, on n'entendait que le vent et les câbles qui grésillaient. Les minutes semblaient des heures. Les gens commençaient à s'inquiéter, certains murmuraient, d'autres regardaient nerveusement autour d'eux. C'est là qu'on a entendu un bruit métallique étrange, j'ai vu le câble qui pendait. En tant qu'agent de sécurité, je savais ce que ça voulait dire, mais je devais garder mon calme pour ne pas paniquer. Une dame m'a demandé ce qui se passait, je lui ai dit que c'était probablement une panne technique normale. Mais au fond de moi, je savais que c'était bien plus grave que ça. Un câble cassé, c'est la pire chose qui puisse arriver dans un téléphérique. Il faisait de plus en plus chaud dans la cabine. On était en plein soleil et les vitres amplifiaient la chaleur comme dans une serre. Les gens commençaient vraiment à avoir soif. Une dame âgée ne se sentait pas très bien. Heureusement, j'avais une petite bouteille d'eau dans mon sac, mais il fallait la partager entre 8 personnes. On entendait les hélicoptères qui tournaient autour de nous, mais ils ne pouvaient pas s'approcher trop près à cause des câbles. C'était frustrant de les voir si près et de ne rien pouvoir faire. Ça faisait déjà 3 heures qu'on était suspendus là, entre ciel et terre. Les secouristes nous faisaient des signes depuis le pylône le plus proche, mais ils avaient du mal à nous atteindre. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me demander combien de temps on allait tenir comme ça. La chaleur devenait vraiment insupportable et l'angoisse montait petit à petit chez tout le monde. La nuit a été interminable, on était 7 dans la cabine, suspendus à 80 mètres du sol. Il y avait cette dame qui n'arrêtait pas de pleurer, son mari essayait de la calmer. Moi j'avais 20 ans, j'étais agent de sécurité, je me devais de garder mon sang-froid. On entendait le vent qui faisait bouger la cabine, donc c'était vraiment angoissant. On n'avait plus de batterie sur nos téléphones, plus de lumière, juste cette obscurité et le bruit du vent. J'ai essayé de parler avec les gens, de les faire penser à autre chose. Il y avait 2 enfants, bah, je leur racontais des histoires pour les distraire. Le plus dur, c'était le froid, on s'est serrés les uns contre les autres pour se réchauffer. On nous avait dit par radio que les secours ne pourraient disaient pas intervenir avant le lever du jour. Il fallait tenir, juste tenir. Le matin du 30 juillet, vers 6 heures, on a entendu le bruit des hélicoptères. Les secouristes sont arrivés par le haut de la cabine. Ils ont d'abord fait descendre les personnes les plus fragiles. Moi, j'ai insisté pour être le dernier à sortir. C'était mon devoir en tant qu'agent de sécurité. Quand ça a été mon tour, je me suis retrouvé suspendu dans le vide. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Je me rappelle avoir regardé vers le haut, vers la cabine où j'étais resté bloqué pendant des heures. Elle était là, suspendue dans le noir comme un fantôme. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment eu peur, même si je ne voulais pas me l'avouer pendant que j'étais là-haut. Une fois au sol, j'ai vu cette jeune femme qui distribuait du café chaud aux rescapés. C'était Claire, celle qui allait devenir ma femme. C'est drôle comme la vie peut basculer, non ? J'ai repris le travail une semaine après l'incident. C'était pas facile, je vous avoue. Chaque fois que je montais dans une cabine, j'avais comme des flashs de cette nuit-là. Je revoyais le vide en dessous, j'entendais encore le vent qui soufflait. Mes collègues ont été très compréhensifs, ils m'ont laissé du temps, mais au bout d'un mois, j'ai compris que je ne pourrais plus faire ce métier. La peur était toujours là, tapie quelque part. C'est bizarre parce que j'adorais ce boulot avant, j'aimais le contact avec les gens, la vue sur la ville, mais après cette nuit-là, quelque chose s'était brisé. Et j'ai donné ma démission 2 mois après l'incident. Alors maintenant, quand les gens me demandent comment j'ai rencontré ma femme, je leur dis en rigolant que c'est grâce au téléphérique. Un incident qui aurait pu être tragique m'a finalement apporté le plus beau cadeau de ma vie. C'est drôle quand mes petits-enfants adorent quand je leur raconte l'histoire de papy bloqué dans la cabine. Ils me demandent toujours « Papy, raconte encore l'histoire du téléphérique ?» C'est devenu une sorte de légende familiale maintenant. Je leur dis que parfois les moments les plus effrayants de notre vie peuvent devenir les plus importants.
Pour les professionnels et certains d'entre vous, en vrai, ça s'entend facilement que cette voix est synthétique. François est presque toujours en l'air et ne finit pas ses phrases. Emmanuel Geoffroy, notre réalisateur, qui est très humain et talentueux, l'a un peu arrangé avec des musiques et des ambiances, mais ça ne suffit pas. Mais pour notre expérience, il faut que vous imaginiez qu'avec simplement un peu plus de moyens et de temps, il aurait été parfaitement impossible de faire la différence avec une voix humaine. Pour faire dire à De Gaulle l'appel du 18 juin, l'IRCAM a mis 6 mois et énormément d'argent, et nous à peu près une semaine. Par contre, l'histoire que François raconte, entièrement inventée par le modèle, en imitant le genre de récit qu'on entend au pied sur terre, est assez vraisemblable, vous me l'accorderez, en dehors du fait qu'en 1975, il n'y a pas de téléphone portable. Elle est un peu caricaturale, mais j'y reviendrai. Mais donc, si on est d'accord que, en n'étant pas alerté, il serait en théorie très difficile de savoir si cette histoire est vraie ou fausse, alors on a un problème. Sauf qu'il se trouve que vous nous faites confiance. Même quand on raconte des histoires où le réel semble plus fou que la fiction, la base de notre relation, c'est la confiance. Quand vous écoutez Un pied sur terre ou une information sur France Culture en général, il y a un pacte d'écoute qui nous lie. Vous savez qu'on ne vous ment pas, qu'on a vérifié que ce qu'on raconte s'est bien passé, qu'on a respecté la parole des gens et restitué leur expérience avec fidélité. Et ce qui fait souvent le sel de notre émission, c'est justement qu'elles sont vraies et très étonnantes. En conséquence, ce que l'IA doit nous inciter à faire urgemment, c'est à garantir et renforcer ce lien de confiance, cette certification de vérité, en étant encore plus irréprochable, rigoureux et en vous proposant un modèle d'information le plus fiable possible, même quand ce sont des petites histoires rigolotes. Leçon numéro 1, donc, on continue dans un autre téléphérique qui pose d'autres questions.
Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et j'ai grandi à Grenoble, Les montagnes, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais petite, je prenais souvent le téléphérique avec mes parents. C'était comme une attraction, quelque chose de magique. Je me souviens, moi, qu'on montait à la Bastille tous les dimanches. Les bulles rouges qui traversaient le ciel, c'était notre rituel familial. Plus tard, j'ai commencé l'escalade, le ski. J'ai décidé d'en faire mon métier. Je travaillais dans un refuge à 2500 mètres d'altitude. Le téléphérique, c'était mon moyen de transport quotidien. Jusqu'à ce 8 septembre 2016. Ce jour-là, je prenais la benne comme d'habitude pour monter au refuge. Il faisait beau, c'était une journée normale. Puis d'un coup, tout s'est arrêté. La cabine s'est immobilisée au milieu du vide. Au début, on ne s'inquiétait pas trop. Les pannes, ça arrive. Mais les minutes sont devenues des heures. On était 6 dans la cabine, il faisait de plus en plus chaud, l'angoisse montait petit à petit, le vent s'est levé, la cabine a commencé à se balancer. J'ai eu peur, vraiment peur, pour la première fois de ma vie en montagne. Les heures passaient et on n'avait plus d'eau, la température montait, c'était insupportable. Une femme a commencé à faire une crise de panique, elle criait qu'on allait tous mourir, qu'elle ne reverrait plus ses enfants. J'essayais de rester calme, de me dire que les secours allaient arriver. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. On entendait le métal qui grinçait avec le vent. La cabine bougeait de plus en plus. Je me souviens avoir regardé en bas, le vide. Plus de 100 mètres d'eau centre sous nos pieds. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Au bout de 4 heures, on a enfin entendu l'hélicoptère. Mais le vent était trop fort, il ne pouvait pas nous approcher. Je me répétais « tiens bon, tiens bon ». Mais j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Je tremblais sans pouvoir m'arrêter. La nuit commençait à tomber, on était toujours suspendus là-haut. J'avais les jambes qui ne me portaient plus. L'hélicoptère a fait plusieurs tentatives, mais impossible de nous atteindre. Le vent était trop violent. Finalement, ils ont décidé d'envoyer une équipe du PGHM par le câble. Je les voyais progresser lentement vers nous. Quand le premier secouriste est arrivé à notre niveau, j'ai fondu en larmes. Je me souviens de son regard rassurant. Il m'a dit « on va vous sortir de là, faites-moi confiance ». J'ai été la troisième à être évacuée. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La descente semblait interminable. Moi, je gardais les yeux fermés, je sentais le vent qui nous ballottait. Quand mes pieds ont touché le sol, mes jambes ne me portaient plus. Je me suis effondrée. Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais été la même. Pendant des mois, je faisais des cauchemars. Je ne pouvais même plus regarder les télécabines de la ville sans avoir des crises d'angoisse. Mon cœur s'emballait, mes mains devenaient moites. J'ai dû arrêter mon travail au refuge. Comment expliquer que celle qui aimait tant la montagne ne pouvait plus y monter ? J'ai commencé une thérapie. Ma psy m'a expliqué que j'avais développé un syndrome post-traumatique. Elle m'a dit que c'était normal, que mon cerveau avait besoin de temps. Petit à petit, j'ai appris à respirer, à me calmer. Quand les crises d'angoisse arrivaient, j'ai commencé à dessiner ce que je ressentais. C'était plus facile que les mots. Un jour, ma psy m'a proposé d'aller voir les télécabines, juste les regarder de loin. J'ai mis 3 mois avant d'accepter. La première fois que je suis retournée sur le parvis de la gare, j'ai vomi. Mais j'y suis retournée encore et encore, un peu plus près chaque fois, comme on apprivoise une bête sauvage. C'était mon combat quotidien. L'escalade me manquait, le ski me manquait. Tout ce qui faisait ma vie d'avant était devenu inaccessible. Un jour, j'ai rencontré un groupe d'alpinistes qui revenaient d'une course. Ils parlaient de leur passion avec tellement d'enthousiasme. L'un d'eux m'a dit qu'il avait aussi vécu une expérience traumatisante en montagne, mais qu'il avait réussi à surmonter ça. Ces mots m'ont touchée. Il m'a dit « La montagne, elle t'attend. Elle sera toujours là quand tu seras prête. » Ça m'a donné la force de continuer ma thérapie. Je me suis fixé un objectif, reprendre le téléphérique de la Bastille, celui de mon enfance, celui des dimanches en famille. Je me suis dit que si j'y arrivais, je pourrais peut-être retrouver un peu de cette insouciance d'avant. J'ai mis encore 6 mois avant d'être capable de monter dans une cabine, 6 mois de préparation mentale, de séances de respiration, de visualisation. Le jour où j'ai décidé de monter, j'étais avec ma thérapeute. Elle m'accompagnait, elle me parlait doucement. Je tremblais tellement que j'ai mis 10 minutes juste pour acheter mon ticket. Mes mains étaient glacées. Devant la cabine, et j'ai failli faire demi-tour. Le bruit des mécanismes, l'odeur du métal, tout me ramenait à cette nuit-là. Mais je me répétais « Tu peux le faire, tu peux le faire ». Je pensais à tous ces dimanches d'enfance où c'était un moment de joie. J'ai fermé les yeux quand la cabine s'est mise en mouvement. Ma thérapeute me parlait, me rappelait de respirer. Le trajet ne dure que 3 minutes, mais ça m'a paru une éternité. Je serrais tellement fort la barre que mes jointures étaient blanches. Quand on est arrivé en haut, j'ai pleuré. Pas de peur cette fois, mais de soulagement. J'avais réussi. La vue était magnifique. C'était comme retrouver une partie de moi que j'avais perdue. Aujourd'hui, je continue à travailler en montagne, mais différemment. J'ai repris mon poste au refuge, mais cette fois-ci, j'y monte à pied. Ça me prend plus de temps, mais chaque pas est une victoire. Je redécouvre la montagne autrement, plus lentement, plus intensément. Il y a des jours où c'est plus dur, où la vue d'une cabine qui passe au-dessus de moi me noue encore l'estomac. Mais je sais maintenant que ce n'est qu'une sensation passagère. Je respire profondément, je regarde les sommets et je me rappelle pourquoi j'aime tant cet endroit. La montagne m'a appris quelque chose d'important. On peut avoir peur et être fort en même temps. La vraie force, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Quand je vois les touristes monter dans les télécabines avec leur sourire excité, je ne peux pas m'empêcher de sourire aussi. Ils vont découvrir cette vue que j'aime tant. Et même si je prends le chemin le plus long pour y arriver, je sais que je suis là où je dois être. La montagne, elle m'attendait vraiment. Je passe maintenant beaucoup de temps à observer les gens qui prennent le téléphérique. leur visage émerveillé me rappelle la petite fille que j'étais. Parfois, quand je croise des groupes de randonneurs qui descendent des cabines, je leur raconte mon histoire. Pas pour les effrayer, mais pour leur montrer qu'on peut surmonter ses peurs.
Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me frappe dans cette deuxième histoire, encore plus que dans la première, c'est qu'elle est tout de même assez caricaturale de ce qu'on fait parfois au pied sur terre. Un peu mélodramatique, introspective, toujours construit légèrement pareil, avec un petit épilogue sous forme de leçon à la fin. J'y vois certains de nos tics et de nos façons de faire devenus parfois répétitifs. Au fond, ces deux scénarios me frappent comme le miroir déformant de certaines de nos habitudes, de nos manies. Ce sont des histoires stéréotypées qui nous imitent de manière simiesque. Un peu comme le chapeau de présentation où il ne manque de fait aucun de mes tics de langage. Et ce qui m'intéresse justement, c'est que l'IA devient alors un révélateur au sens chimique de ce qu'il ne faut peut-être pas ou plus faire, du moins une matière à réflexion. Et c'est normal, car notre jeune développeur a entraîné son modèle à partir de 1072 scripts des pieds sur terre parmi les plus récents. L'IA a donc appris à écrire des scénarios qui ressemblent à ce qu'on fait d'habitude, qui nous imitent. Mais comme l'auteur Alain Damasio, qui demande à ChatGPT d'écrire un roman à la manière d'Alain Damasio et trouve ça un peu plat et naze, il faut que nous, on en tire des leçons sur nos automatismes, sur le risque de nous répéter ou de nous caricaturer. Et ça tombe bien parce que c'est ce que nous faisons constamment et depuis toujours, nous poser des questions et trouver des idées nouvelles. C'est donc le deuxième avertissement et il y en aura d'autres et donc promis, pas d'histoire mélodramatique dans un téléphérique où il ne manque aucun des ingrédients d'un mauvais film hollywoodien. Merci à vous d'avoir participé à cette expérience sur laquelle on espère que vous aurez de nombreux commentaires, sympathiques, de préférence ou pas. Merci à la direction du numérique et de l'innovation, à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, à Mathieu Beauval, Thomas Biassi, Yon Stark et Paul Cadet. Au pied sur terre, merci à Emmanuel Geoffroy qui a prêté son concours à l'expérience, à Valentin Rémy, notre attaché de production, et à Inès Bouffartix, Sébastien, notre stagiaire. Merci également à Xavier Delaporte pour ses pistes de réflexion. Plus d'informations sur cette expérience d'un point de vue technique pour les geeks, des références bibliographiques et des infos, c'est sur notre site à la page Les Pieds sur Terre. Et sachez-le, on est encore là pour un bout de temps et on ne lâche rien. To you through broken shells, white moth comes. She gives herself to him, 'cause he keeps you strong. Yeah.